Bienvenue à toutes et à tous dans Culture Monde, le magazine d'actualité internationale de France Culture, à retrouver du lundi au vendredi de 11h à midi. Une émission préparée avec Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troiano, Margot Leridon, Bertie Bourdon et Nora Litoussi. À la réalisation, c'est Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, Marie-Claire Oumabadi. Pénurie de logements, habitats insalubres ou trop petits, alors que des générations entières n'ont plus les moyens de quitter le nid familial, on s'intéresse cette semaine à la crise du logement. Hier, nous évoquions l'envolée des prix dans les grandes villes européennes et les modèles de logements alternatifs. Demain, nous serons en Afrique du Sud où l'on peine à se loger malgré de grands chantiers de construction mis en place après l'apartheid. Jeudi, nous ferons le bilan des grands programmes de logements sociaux au Brésil et au Venezuela. Mais ce matin, direction la Chine, après l'éclatement de la bulle du marché immobilier, la colère des petits propriétaires.
J'ai acheté cet appartement en raison de son prix et de son emplacement. Je n'imaginais pas que les promoteurs arrêteraient les travaux à la fin de l'année. Ils n'ont respecté aucun des délais qu'ils nous ont donnés. Jusqu'à présent, ils ne nous ont toujours pas donné nos appartements.
Vous avez jeté votre conscience et votre morale en pâture aux chiens. Nous avons vendu tout ce que nous possédons pour nous offrir un appartement construit par Evergrande parce que nous voulions être logés par une entreprise prestigieuse comme la vôtre. Si on ne me rend pas mon argent, je vais sauter du haut d'un de leurs immenses buildings. Ils m'ont trompé, ils m'ont volé.
Je ne sais pas pourquoi, mais les pétitions ne servent à rien. Nous nous sommes rendus au bureau des pétitions pour leur remettre des documents conformément aux procédures gouvernementales. Nous nous sommes adressés au gouvernement local de Zhengzhou, mais nous n'avons pas eu de nouvelles et tout est resté en l'état.
Ils se massent au pied des buildings flambant neufs, des compagnies immobilières, déploient des banderoles où s'écrit leur amertume et réclament ce pourquoi ils ont travaillé toute une vie. Dans chaque cortège, les mêmes histoires, des ménages qui se sont endettés pour acheter des appartements sur plan et dont ils ne recevront jamais les clés puisque les chantiers se sont arrêtés. 2 ans après avoir annoncé être en cessation de paiement, le géant chinois de l'immobilier Evergrande, symbole de la réussite puis des dérives du secteur, a été placé cette semaine en liquidation judiciaire. L'entreprise était endettée à hauteur de 328 milliards de dollars et c'est toute l'économie chinoise où l'immobilier pèse entre 25 et 30% du PIB qui plonge dans l'incertitude. Quant aux acheteurs, c'est bien souvent la double peine, des économies englouties dans la spirale spéculative et un rêve d'ascension sociale brisé. Jusqu'où iront la crise de l'immobilier et la colère des petits propriétaires en Chine? Quelle réponse le gouvernement peut-il leur apporter? On en discute ce matin avec nos invités. Natacha Aveline, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct avec nous depuis Singapour. Vous êtes géographe, directrice de recherche au CNRS. Et notre seconde invitée est également à distance dans les locaux de France Bleu, pays d'Auvergne, à Clermont-Ferrand, les locaux de France Bleu que je salue. C'est Marie-Françoise Renard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste à l'université de Clermont-Ferrand. Vous êtes l'autrice de L'économie de la Chine. C'était paru aux éditions La Découverte. Marie-Françoise Renard, on va évidemment commencer avec cette annonce qui est tombée hier depuis un tribunal de Hong Kong, la mise en liquidation de Evergrande. Est-ce que c'est une décision qui était attendue et redoutée, puisque l'entreprise, elle, espérait un plan de restructuration qu'elle avait proposé, ou bien est-ce que c'est une annonce qui a surpris tout le monde?
Alors, elle a plutôt surpris tout le monde, ou presque, même si, bien sûr, le problème d'Evergrande, qui a été mis en défaut de paiement en 2021, n'est pas nouveau, que on sait que l'entreprise a aussi des problèmes de gestion, une mauvaise diversification. Il n'y a pas très longtemps, le directeur avait annoncé que l'entreprise de véhicules électriques qui appartient à Evergrande ne fonctionnait pas très bien, et donc, on savait que l'entreprise restait en très grande difficulté. Donc, c'est pas totalement une surprise, mais on ne savait évidemment pas ce que une cour de justice pouvait décider. Donc de ce point de vue-là, ce qui est très intéressant, c'est de voir maintenant comment cela va se passer. Parce qu'il y a évidemment un grand nombre d'interrogations. Mais je rappelle quand même qu'en 2021, il y a un accord qui a été signé entre Hong Kong et la Chine continentale et qui permet la réciprocité des décisions de justice prises sur le territoire. Donc normalement, la décision prise à Hong Kong devrait pouvoir s'appliquer en Chine continentale. Et c'est ce qu'on va voir dans les mois qui viennent, semaines qui viennent.
Oui, parce que étant donné le contexte politique entre Pékin et Hong Kong, c'est effectivement une question qui se pose, enfin c'est la question que j'allais vous poser, s'il y avait une incertitude quant à l'applicabilité de cette décision en Chine continentale. Et derrière la question, c'est est-ce que les autorités, le gouvernement, le PCC, va peut-être tenter d'aller contre cette décision en fait, est-ce que c'est vraiment la fin de la saga d'Evergrande?
Alors le patron d'Evergrande a dit qu'il allait continuer. Il faut savoir que il y a 90% des actifs d'Evergrande qui sont en Chine continentale et 10% ailleurs. Et donc, première question, est-ce que les créanciers étrangers vont être payés? Est-ce que le gouvernement va dire, il va de notre crédibilité de rembourser les pertes? Deuxième question, qu'est-ce qui va se passer sur le territoire de la Chine continentale? On a écouté avec votre petit documentaire les mobilisations, le mécontentement de la population. Les manifestations en Chine sont très nombreuses et le gouvernement y est très attentif. Il faut savoir que la Chine est un pays de propriétaires, que l'immobilier c'est un moyen de placer son épargne, de se constituer un patrimoine dans un pays où il n'y a pas beaucoup d'alternatives, et c'est aussi un statut social. Il n'est pas envisageable pour un homme de se marier s'il n'est pas propriétaire d'un appartement, et beaucoup de Chinois sont propriétaires de plusieurs appartements. Et donc cette situation va énormément toucher la population qui manifeste violemment. Et donc, il y aura probablement, le gouvernement a déjà pris beaucoup de mesures pour l'immobilier. Il a incité, quasiment obligé des banques d'État à prêter au secteur immobilier l'année dernière des sommes très importantes. Et il s'est pratiquement engagé à ce que les propriétaires qui avaient payé pour leur appartement, comme vous l'avez rappelé, ces appartements, ils sont vendus sur plan, donc les gens paient avant de l'avoir, et le gouvernement a laissé penser quand même assez fortement qu'il allait dédommager les propriétaires pour qu'ils récupèrent leur appartement, c'est-à-dire que l'appartement soit construit, on va aider les entreprises immobilières à terminer les appartements pour que le mécontentement ne soit pas encore plus important dans les années qui viennent ou dans les mois qui viennent, et qu'on aide ces propriétaires à s'en sortir parce qu'ils sont dans une situation qui est absolument dramatique. Alors il faut quand même rappeler qu'il y a des très grandes disparités territoriales. La population urbaine est supérieure à la population rurale seulement depuis 2010. Donc il y a une grande diversité de populations entre les urbains, les ruraux, les provinces côtières qui sont riches, les provinces du Nord qui ont subi des départs de population. Il y a une crise de liquidation du service public, donc il y a des stocks d'appartements vides. Donc les situations sont très différentes selon les endroits du territoire.
Ce qu'on entend en tout cas, c'est que le gouvernement surveille la situation de près. Oui. Il y a une inquiétude, une fébrilité, mais étant donné la puissance, l'immensité du parc que possédait Evergrande, Natacha Aveline, est-ce que le gouvernement peut avoir tout simplement les moyens de compenser les pertes? Quand bien même en aurait-il la volonté?
Ça, je crois que c'est quand même une question assez difficile à investiguer aujourd'hui. On a très peu d'éléments pour évaluer la capacité de Evergrande à liquider ses actifs. Ce qu'il faut quand même préciser, c'est que Evergrande vient de Guangzhou et que cette ville ne reconnaît pas les décisions du 6 de Hong Kong. Donc, je suppose qu'Evergrande a quand même un patrimoine très important d'actifs à Guangzhou. Donc, il y a une incertitude aussi là sur la vente des actifs à Guangzhou même. Ça, c'est déjà un premier problème. On sait que ces dettes équivalent à 2% du PIB chinois, mais on sait qu'il y a aussi des dettes hors bilan qui représenteraient près de 1% du PIB chinois, sous la forme par exemple de produits de gestion de patrimoine. Donc on peut penser que il n'y a pas que les logements à terminer, il y aura encore d'autres dettes qui seront, d'autres ménages qui seront impactés au-delà des accédants à la propriété. Sinon, Il faut aussi quand même mentionner le fait que Evergrande, on en parle beaucoup effectivement, c'est dans l'actualité, mais il y a d'autres promoteurs plus importants que Evergrande, comme par exemple Country Garden, qui a plus de 3000 projets en Chine et à l'étranger, contre 800 seulement pour Evergrande. Donc aujourd'hui, ce promoteur n'est pas en faillite. Il a fait défaut sur des remboursements d'obligations, oui, certes. Mais bon, on sait que, bah, par exemple, en face de Singapour, à Johor Bahru, il a vraiment une opération énorme dont vous avez entendu parler certainement sur votre antenne, qui est complètement, c'est devenu une ville fantôme. On devait construire 700 000 logements. Donc là, c'est le taxpayer malais qui va payer à 40% les dettes sur cette opération, en tout cas, c'est-à-dire que tout ce qui va être à les travaux qui ont déjà été engagés de remblaiement artificiel, etc., seront voilà à rembourser en partie par le taxpayer malais. Juste pour finir sur Country Garden, c'est d'autant plus inquiétant que en plus son patrimoine de logements se situe dans les villes de troisième, quatrième catégorie qui, elles, ont le marché le plus fragile. Voilà. Donc, on n'est pas à la fin de cette crise immobilière. Il y a encore derrière Van Keuk, qui était le plus grand promoteur immobilier, qui, lui, commence aussi à connaître des problèmes.
Oui, alors loin d'être la fin d'une saga, cette crise de Evergrande, ce n'est peut-être que le début alors, on n'est pas encore à un stade d'effondrement du secteur immobilier, mais en tout cas de fortes perturbations. Est-ce qu'on peut peut-être juste prendre le temps de rappeler comment est-ce qu'on en est arrivé là à une situation où des promoteurs immobiliers sont devenus de véritables géants et ces géants sont extrêmement endettés et aujourd'hui se retrouvent incapables de faire face à leurs obligations, Marie-Françoise Renard?
Oui, alors il s'agit effectivement d'un problème structurel de l'économie chinoise qui a été pendant des années, les années 80-90, en sous-investissement, qui avait besoin d'infrastructures, d'immobilier, etc. Donc il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été des investissements productifs, qui ont soutenu la croissance qui à l'époque était une croissance à deux chiffres. Et à partir des années 2000, du début des années 2000, les besoins sont moins importants, mais on va continuer à investir pour atteindre les objectifs de croissance. Le gouvernement chinois, le gouvernement central, annonce tous les ans, au moment de la réunion des parlements au printemps, le taux de croissance de l'année. Et ensuite, les gouvernements locaux doivent atteindre ce taux de croissance dans leur activité économique. On sait que les gouverneurs doivent leur carrière à la réussite de la mise en application de la politique économique. Donc, les gouverneurs locaux vont investir pour avoir des taux de croissance importants. Quand on investit dans l'immobilier, on fait travailler des tas d'entreprises et donc ça soutient la croissance, même s'il n'y a pas vraiment une demande. Donc, les investissements sont devenus de moins en moins productifs. La demande a faibli sur ce type de produit. Mais pour les gouvernements locaux, c'était un moyen de fonctionner en vendant des terrains aux promoteurs immobiliers qui se sont de plus en plus endettés alors qu'ils auraient dû ralentir fortement leur activité. Au contraire, ils ont accru leur activité et beaucoup se sont diversifiés. Ces diversifications, elles ont souvent été malheureuses. On a beaucoup parlé d'Evergrande qui a racheté des cinémas, des industries automobiles, etc., etc., qui ont été mal gérées. Donc il y a eu un mélange d'investissements qui devenaient improductifs dans l'immobilier, de mauvaise gestion dans la diversification des entreprises. On se souvient qu'on a construit des villes fantômes, etc. En 2008, le plan de stimulation qui a été mis en place a été en partie utilisé pour soutenir l'activité dans l'immobilier. Et donc, progressivement, il y a eu un endettement qui est devenu inquiétant pour ce secteur-là, pour les promoteurs immobiliers. Ils ont une crise de solvabilité, c'est-à-dire que à long terme, leurs actifs sont insuffisants pour payer leurs dettes, et ils ont une crise de liquidité, c'est-à-dire qu'à court terme, ils ne peuvent pas non plus satisfaire les besoins de trésorerie. Et donc, on a eu cette spirale d'endettement des grands groupes immobiliers, dont on s'est demandé comment il allait se terminer, et en 2020, le gouvernement central a fixé ce qu'il a appelé les trois lignes rouges. rouge qui limite l'endettement des promoteurs immobiliers. Par exemple, le passif des entreprises doit être inférieur à 70% de leurs actifs, etc. Il y a trois ratios qui définissent les limites d'endettement des entreprises. Alors, ces promoteurs immobiliers qui avaient l'habitude de fonctionner sur l'endettement, ils se sont trouvés dans une situation où ils ne pouvaient pas continuer à emprunter parce que c'était interdit. En tout cas, c'était très limité. Mais ils avaient vendu des appartements sur plan qui n'étaient pas construits. Donc, il fallait payer les entreprises qui allaient construire ces appartements. D'où cette crise. Les entreprises, les promoteurs immobiliers ont été contraints de limiter leur endettement, de limiter leurs emprunts. Donc, ils n'ont pas eu les moyens, ils n'ont pas eu les liquidités suffisantes pour construire les appartements qu'ils avaient déjà vendus.
Et résultat, aujourd'hui, très concrètement, dans le paysage urbain de la Chine, cette déconnexion croissante entre, d'un côté, des chantiers et une demande qui, finalement, est en baisse, eh bien, ça donne ce qu'on appelle des villes fantômes, comme à Jurong, par exemple, dans la province du Jiangsu, à l'est du pays.
Quand j'ai acheté mon appartement, j'espérais qu'il y ait des écoles, des magasins, le parc d'attractions. Mais il n'y a rien de tout ça. Juste une zone déserte tout autour. Même pour trouver quelque chose à manger, il faut prendre la voiture. Moi, ça va. Au moins, j'ai un endroit où vivre. Il y a beaucoup de gens qui ont signé un contrat et payé un acompte, d'autres qui ont pris un prêt, mais ils n'arrivent pas à obtenir le certificat de propriété.
Témoignage d'un propriétaire à Jurong où Evergrande était engagé dans un méga projet immobilier autour d'un parc d'attractions. Cet homme qu'on entend, il est bien seul dans son appartement et dans un immeuble ville, une ville complètement déserte. Natacha Aveline, est-ce que ça, ce sont des phénomènes qu'on voit se développer de manière croissante en Chine? Est-ce que c'est exagéré de parler de ville fantôme ou est-ce qu'on peut le faire et quelle est finalement l'ampleur du phénomène?
Parfois, la presse parle de villes fantômes quand il s'agit que de quartiers qui peuvent avoir juste des problèmes de connexion à des infrastructures. Moi, j'en ai visité comme ça. Je pense qu'il faut faire attention à ce que la presse dit, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que il y aurait au bas mot 50, enfin il y avait il y a 15 ans déjà 50 millions de logements vides. Il y a de fortes chances qu'il y en ait beaucoup plus, seulement on ne peut plus les compter, on n'a plus de chiffres officiels. On sait que selon des estimations de du think tank Nomura, il y aurait 20 millions de logements inachevés en Chine. Donc on voit un peu l'ampleur du problème.
C'est assez colossal.
Alors,
comme chiffre.
C'est colossal, c'est tout à fait colossal. D'où cela vient-il? En fait, ça vient d'un modèle d'urbanisation tout à fait singulier que la Chine a développé, que l'État, en fait, productiviste, qui est tout tourné vers la croissance, a développé de façon assez incrémentale à partir des années 80. C'est-à-dire que au départ, bon, il y a déjà eu, je vais commencer par la réforme fiscale de 94, l'État a décidé de recentraliser une partie de ses revenus fiscaux, notamment la TVA, l'impôt sur le revenu, ce qui fait que tout en décentralisant les responsabilités aux collectivités locales, y compris des responsabilités de servir des pensions de retraite des employés d'État dans la ville. Donc, ce sont des dépenses qui sont très supérieures à celles qu'assument nos collectivités locales en France, alors qu'elles perdaient une grande partie de leurs ressources. Donc, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont vendu du foncier pour boucler leur budget. Et alors, leur stratégie a été de lancer une espèce une méga captation foncière. On peut dire ça comme ça, c'est-à-dire que elles vendaient du foncier à bon marché à des industriels pour les attirer sur leur territoire. Une fois que l'industrialisation avait pris, eh bien, il y avait de l'urbanisation autour. Et ensuite, elles vendaient aux promoteurs des terrains au prix fort, au prix vraiment optimisé, qui eux-mêmes vendaient à des accédants à la propriété. Donc, en faisant cela, donc elles puisque le terrain est public, elle les met aux enchères, les terrains, elle récupérait la différence entre ce qu'elle avait indemnisé auprès des agriculteurs, le coût d'indemnisation qui était très très faible, ou bien aux ménages qui étaient en centre-ville et qui au début étaient indemnisés de façon ridicule, mais qui eux quand même ont été capables, surtout dans les grandes villes, assez rapidement de bien négocier les indemnisations de leurs terrains centraux, enfin de leurs logements centraux qu'il fallait reconstruire. Et donc, en fait, cette méga captation foncière a été faite en fait au détriment de des agriculteurs, des ménages des centres, et puis des accédants à la propriété à qui on vendait les logements au prix à des prix très très élevés.
Et justement,
et ça servait à extraire la rente foncière et à boucler les budgets.
Et c'est un système qui a bien fonctionné pendant des années. Comment se fait-il que personne n'ait tiré la sonnette d'alarme d'un système qui, si on se projetait à long terme, on pouvait voir, j'imagine, qu'il y avait quelque chose de biaisé dans la croissance et dans ces recettes qui étaient tirées, vous le disiez, par les gouvernements locaux pour boucler leur fin de mois parce que l'État leur avait délégué des fonctions et des dépenses de plus en plus importantes, tout en leur fixant en plus des objectifs de croissance. Pourquoi est-ce que personne n'a tiré la sonnette d'alarme avant Marie-Françoise Renard ?
Alors, beaucoup ont tiré la sonnette d'alarme et on parle de réformes structurelles depuis très longtemps. Les réformes qui étaient prévues, sans qu'on ait d'ailleurs nécessairement le résultat des réformes, avaient été annoncées déjà avant la crise de 2008 et puis la crise a tout remis en question. Il est certain que c'est un système qui est dangereux, puisqu'on a une sorte de cercle vicieux de l'endettement, d'autant que les gouvernements locaux n'ont pas le droit d'emprunter, donc ils ont créé ce que l'on a appelé des véhicules de financement, qui sont une sorte de finance de l'ombre. Et depuis quelques années, le gouvernement est intervenu pour assainir cette situation. Donc il y a déjà des mesures qui ont été prises. Mais sur le fond, il reste un problème qui n'est absolument pas réglé. Comme cela a été rappelé par Natacha tout à l'heure, il y a une réforme en 1994 qui, d'une certaine de façon, centralise les recettes vers le gouvernement central et décentralise les dépenses vers les gouvernements locaux. Et donc la situation, elle n'est pas tenable parce qu'ils ont de plus en plus de responsabilités. On l'a bien vu au moment de la crise du Covid, mais c'est vrai dans de très nombreuses situations, c'est les gouvernements locaux qui doivent payer les biens publics, les services publics, etc., alors qu'ils ont très peu de recettes. Et donc, on sait qu'il est nécessaire de faire une réforme, notamment une réforme de la fiscalité, mais la mise en place de la taxe foncière qui a été testée dans certains endroits est extrêmement impopulaire. La population n'a pas envie de payer une taxe foncière, donc pour l'instant, le gouvernement n'a pas osé, entre guillemets, s'opposer à la population, il n'y a pas eu cette réforme, mais il est absolument indispensable que on restructure les relations entre le gouvernement central, qui intervient assez peu directement en fait. C'est ce qui intervient, c'est les gouvernements locaux, les banques d'État, etc. Le gouvernement central, il n'intervient pas nécessairement beaucoup directement. Donc, il est nécessaire de revoir les finances publiques des gouvernements locaux, d'autant que dans un contexte où on veut relancer la demande, où on se dit qu'en raison des problèmes démographiques, peut-être qu'on pourrait limiter, si ce n'est supprimer, au moins pour les villes de taille moyenne, le RUCO, ce sorte de livret de famille qui définit si vous êtes un urbain ou un rural. Tout ça, comme ça va donner plus de droits aux gens qui étaient des migrants, tout ça va coûter de l'argent pour le soutien à la demande, pour toutes les réformes qui sont nécessaires. Qui va payer ? Est-ce que ce sont encore les gouvernements locaux ? La question, personne ne répond à cette question. Et c'est la question fondamentale. On doit mettre en place des réformes. Qui va les payer ? À quel niveau cela va se situer ? Et on sait qu'au bout du compte, ça nécessite une réforme des finances des gouvernements locaux. On le sait depuis longtemps. On parlait déjà de réformes sous Hu Jintao au début des années 2000. Ces réformes, elles sont très difficiles à mettre en place. Elles sont plutôt impopulaires. Et donc, pour l'instant, on a toujours repoussé la situation parce que on a fait le choix de la croissance économique. Mettre en place ces réformes, ça veut dire aussi accepter d'assainir le secteur immobilier, ce qui est en train d'être fait, mais donc accepter qu'on ait un plus faible taux de croissance, voire nettement plus faible taux de croissance.
Et pour comprendre les conséquences de cette crise au niveau aussi social, il faut savoir que le logement a un rôle absolument central dans la vie des Chinois. Écoutez ces témoignages.
Comme il n'y a plus assez de femmes, c'est la surenchère. Maintenant, il faut avoir une maison en ville et de l'argent. Il faut plus de 70 000 euros pour convaincre une femme de vous épouser. C'est trop cher pour des paysans comme nous.
Ici, les garçons se marient à 23-24 ans. Je me suis inquiété quand j'ai eu 27 ans. À force de ne pas trouver de femme, je sens mon cœur vide. Quand je rencontre des copains mariés, j'ai honte de parler. J'ai l'impression de ne pas avoir de visage.
Témoignage de deux hommes célibataires dans la province du Hunan, pour qui le mariage semble inaccessible tant qu'ils n'ont pas de logement. C'était des témoignages recueillis par Arte en 2021. Natacha Aveline, en quoi la possession d'un logement aujourd'hui conditionne le reste de la vie? Se marier, fonder une famille, faire des économies, accéder à une certaine reconnaissance sociale?
Oui, c'est un marqueur de réussite sociale. Ça a été totalement construit par le gouvernement, parce qu'avant, les gens étaient occupants de logements et payaient un loyer dérisoire. Il n'y avait pas de ces enjeux de devenir propriétaire. L'État a créé une doctrine propriétariste, valorisant la propriété en faisant déjà des ménages des propriétaires fonciers. Hein, il a vendu, il a liquidé tout le patrimoine de logements publics et il l'a vendu à ses occupants. Donc, ils sont devenus du jour au lendemain propriétaires de leur logement. Bon, et puis voilà, ce discours s'est diffusé. Aujourd'hui, on a un excédent de environ 30 000 au bas mot, hein, je ne sais pas le chiffre exact, mais 30 millions pardon de garçons par rapport aux filles. Donc effectivement, on comprend bien que la concurrence est très très rude, hein, comme on vient de l'entendre. Ce modèle en plus a été mis en place dans les années 80. Il y a vraiment un marché du logement commercial qui a été mis en place et c'était un axe de croissance, un des cinq grands axes de croissance que l'État développeur avait mis en place pour développer l'économie. Je voudrais quand même juste revenir sur ce qui s'est passé après 2008 parce que c'est quand même important. Aujourd'hui, si on en arrive à des niveaux de prix immobiliers tellement élevés, on dépasse largement les prix immobiliers parisiens dans les grandes villes chinoises. Shenzhen est plus cher que Hong Kong. Enfin, vraiment, on marche sur la tête maintenant. C'est surtout parce qu'il y a eu une accélération des valeurs immobilières à partir de 2008, à partir du plan de relance que le gouvernement a entamé donc juste après la crise subprime, même si la Chine n'a pas été trop impactée, il n'empêche qu'elle a été suffisamment pour qu'on mette en place un plan de relance de quand même 586 milliards de dollars. Et ce plan de relance a surtout permis un investissement massif en infrastructures et notamment en infrastructures ferroviaires. On avait des villes on avait seulement 8 villes en 2008 qui avaient un réseau de métro. Aujourd'hui, on a plus de 45. Donc, il y a eu vraiment un boom ferroviaire qui a permis. Vous imaginez bien que quand vous construisez un réseau ferroviaire dans une ville, vous avez un formidable levier de captation foncière, hein, de la rente, puisque on va bénéficier des gains d'accessibilité, des économies d'agglomération autour des gares. Donc, pour les collectivités locales, c'est évident que se doter d'un réseau d'infrastructures de métro, c'est absolument essentiel si on veut continuer à vivre de l'extraction de la rente, comme elles le faisaient. Alors, elles le font aussi pour d'autres raisons, hein, le prestige, la modernité, la croissance durable, parce qu'on a quand même ajouté la question de la pollution dans les carrières des cadres municipaux. Maintenant, on tient compte aussi de leur capacité à ne pas trop polluer à côté du PIB. Donc ça fait quand même partie des préoccupations qu'ils ont eues. Et juste un point aussi, donc cette formidable poussée des prix immobiliers a inquiété le gouvernement, comme ça a été dit tout à l'heure par Françoise. Déjà en 2017, Xi Jinping avait dit et martelé « les logements sont faits pour y vivre, non pas pour spéculer ». Donc c'était assez clair qu'il y avait un signal important. Il y a eu des mesures aussi sur les taux, sur le montant de l'apport personnel pour un deuxième et un troisième logement. Donc ça en dit long quand même. Ces ménages étaient vraiment multipropriétaires pour beaucoup d'entre eux. Ce qui s'est passé aussi, c'est que Xi Jinping a demandé apparemment, enfin il y a eu une injonction très forte aux promoteurs à se diversifier. S'ils se sont diversifiés comme Evergrande ou Vanke, etc., vers des secteurs dont ils n'avaient pas la maîtrise, c'est aussi parce qu'on leur a dit, écoutez, vous n'aurez plus de terrain, vous n'aurez plus de ligne de crédit. Ce sont quand même des banques d'État hein, qui fournissent les lignes de crédit aux promoteurs privés. Si vous continuez à délirer comme ça et si vous vous embarquez dans cette folie. Donc, ils ont quand même restreint leur activité. Ils ont essayé. Ils ont montré au gouvernement qu'ils faisaient des efforts pour avoir des terrains. Par exemple, Vanke a fait du logement pour personnes âgées. Ils ont fait des villages seniors. Et alors, comme par hasard, c'était des gens de 40 ans qui achetaient dans les villages seniors. Parce qu'en fait, ils détournaient, ils profitaient d'une possibilité de détourner les règles qui les empêchaient d'acheter leur deuxième ou leur troisième logement.
Ce qu'on voit bien, c'est que ce qu'on voit bien, c'est que la nation entière a été encouragée à devenir propriétaire. Vous parliez d'une doctrine propriétariste, et ça, c'est plutôt récent à l'échelle de l'histoire de la Chine, hein, les années 80, fin des années 80. Marie-Françoise Renard, aujourd'hui, ces propriétaires, ils manifestent. Vous disiez tout à l'heure de nombreuses manifestations. Alors, est-ce qu'on arrive à avoir un peu une idée du nombre de personnes qui descendent dans la rue, qui se mobilisent devant les buildings des promoteurs? Et est-ce que cette colère vers qui est-elle tournée? C'est-à-dire que vers les promoteurs, certes, mais est-ce qu'elle va au-delà? Est-ce qu'elle se tourne aussi vers les gouvernements locaux, voire les autorités nationales?
Alors, les autorités nationales, non. Il faut savoir qu'en Chine, les manifestations, elles sont très très nombreuses. Surtout, il y en a eu beaucoup, quand on regarde, il y a des statistiques qui sont publiées par un certain nombre d'institutions sur les manifestations, et après 1989, elles se sont multipliées. Des travailleurs dans les usines qui manifestaient pour leurs droits. Là, on le voit avec les propriétaires, mais c'est aussi les agriculteurs en cas de sécheresse. Enfin, les raisons des manifestations, elles sont très nombreuses, et il y a beaucoup de manifestations. Elles se sont accrues avec les réseaux sociaux, puisque les gens se donnent rendez-vous par l'intermédiaire des réseaux sociaux, qui sont extrêmement utilisés en Chine. Il n'y a pas de manifestation organisée au niveau national par un syndicat qui serait indépendant du Parti communiste, quel que soit le secteur. Ça n'existe pas. Ce sont des manifestations locales qui ne vont pas s'en prendre au gouvernement central ou à la politique du gouvernement, parce que les gens savent que c'est dangereux, c'est risqué pour eux. Donc, selon les cas, là aujourd'hui, ils s'en prennent aux promoteurs immobiliers. Ils peuvent s'en prendre aussi, c'est assez souvent le cas, aux fonctionnaires locaux ou aux politiques locaux qu'ils estiment corrompus. On a vu beaucoup ça dans le cas de manifestations contre la pollution pour des décisions qui avaient été prises de façon tout à fait illégale. C'est l'objet de beaucoup de manifestations parce que ça touche à la santé des gens. Et là, on s'en prend soit aux gens qu'on considère comme responsables, bon, pour le logement, les promoteurs immobiliers, mais aussi aux gens qui ont mis en place cette politique et dont on pense qu'ils se sont enrichis aux dépens de la population. Donc, on l'a vu avec les gens qui sont licenciés, etc. Beaucoup de raisons, dans tous les cas, de manifester. Donc, au niveau local, ces manifestations, elles sont très nombreuses. Le gouvernement central et les gouvernements locaux suivent de près tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Bien sûr, ils sont contrôlés, censurés, etc. Mais les nouvelles, elles sont données, elles restent un moment sur les réseaux sociaux. Et cela permet aussi au gouvernement central de voir comment est perçu le personnel politique local. Qui est critiqué? Qu'est-ce que les gens ont fait? Qu'est-ce qui est impopulaire? Et contrairement à ce qu'on pense souvent, la population chinoise, elle ne peut pas être assimilée au gouvernement chinois. Elle est extrêmement diverse. Il y a des catégories très diverses de personnes et elle est souvent très active. Donc ces manifestations, elles sont assez nombreuses et elles permettent de prendre un peu le pouls de la population. On l'a vu dans sur des tas de sujets. Le rallongement de l'âge du travail, par exemple, parce que la retraite est très tôt, c'est très impopulaire et donc le gouvernement n'ose pas prendre ces mesures.
Natacha Aveline, sur la question de la mobilisation de la population et puis sur une mobilisation en particulier, on a pu voir des reportages sur propriétaires qui font la grève des remboursements de leurs emprunts qui devaient leur servir à payer leur logement. Est-ce que ça c'est aussi un phénomène notable et est-ce que c'est un levier efficace?
Alors, pour répondre en général sur les manifestations, bon, on sait, pour donner quelques chiffres, on aurait environ entre 50 et 70 manifestations par mois, hein, au cours des derniers mois, même des dernières années. C'est une ONG qui s'appelle Freedom House qui donne des informations sur ces manifestations en utilisant effectivement les données des réseaux sociaux puis un système de machine learning. Et ces manifestations ont eu lieu, d'après elle, c'est une donnée qui date de décembre, je crois, dans 276 villes. Ce sont, comme l'a dit Françoise, des petits mouvements qui sont vraiment pas très importants, qui sont assez atomisés, qui effectivement se localisent à des endroits stratégiques. Et ce qu'on sait, c'est que il y a à peu près, toujours d'après les statistiques de cette association, de cette ONG, il y aurait 2/3 de ces manifestants qui seraient des propriétaires mécontents, soit parce que leurs logements n'ont pas été achevés, soit parce qu'il y a des malfaçons, parce qu'il y a aussi beaucoup de malfaçons dans la construction en Chine. Et le tiers restant, il ne faut pas oublier qu'il y a des ouvriers du bâtiment qui ne sont pas payés par ces entreprises en difficulté. Et donc, le tiers restant, ce sont des ouvriers du bâtiment qui réclament leur salaire. Alors, il y a quand même, ces mouvements ont quand même plus pris, ils sont beaucoup plus importants dans les grandes villes, dans les villes les plus riches, à Shenzhen, à Xi'an et surtout à Zhengzhou, où on a beaucoup parlé de Zhengzhou, je pense, dans la presse. Ça a pu atteindre la dizaine de milliers de personnes. Alors, pour ce qui est du boycott du remboursement des prêts, effectivement, il y aurait eu environ 11 manifestations à ce sujet. Et effectivement, les gens se retrouvent, ils communiquent. Ah ben tiens, tu l'as fait, j'y vais aussi. Et puis, certains arrivent à obtenir un moratoire de 6 mois, mais ça n'allume pas la dette. La dette reste telle qu'elle. Et bon, bah, ça soulage pendant 6 mois, mais ça s'arrête là. À ma connaissance, ça n'est pas vraiment efficace.
Vous voyez ces poteaux ? On est en train de démonter les échafaudages. S'il n'y avait pas de problème financier, on continuerait de construire les immeubles. Je ne sais toujours pas si je recevrai mon salaire ou pas.
Au moins, j'ai toujours un emploi. Mais je ne sais pas quand je serai payé. L'entreprise n'a pas d'argent pour l'instant. Qu'est-ce que je peux y faire ?
À la colère des propriétaires s'ajoute donc celle des ouvriers, des employés du secteur du bâtiment que vous veniez d'évoquer à l'instant justement, Natacha Aveline, reportage d'ouvriers du BTP recueilli par France 24 et c'était déjà en 2021. Il faut aussi mentionner les épargnants dont certains, dans le Hunan par exemple, ont vu leurs économies gelées par les banques. Pourquoi ? Parce que les banques détiennent des actifs immobiliers qui sont aujourd'hui devenus très incertains. Les acheteurs, les ouvriers, les épargnants, Marie-Françoise Renard, toujours sur cette question de la colère et de ses répercussions, est-ce que une agrégation des différentes colères pourrait représenter une bombe à retardement pour les années à venir ?
Alors, c'est très difficile. Bien sûr, avec notre vision européenne, on se dit s'il y a une multiplication des mécontentements à droite, à gauche, est-ce que ça ne risque pas de remettre en cause la crédibilité du gouvernement, de vouloir le remplacer, etc. Il faut bien voir qu'en Chine, pour l'instant, les gens n'ont pas d'alternative au gouvernement actuel. Il n'y a pas une organisation politique qui serait tapie dans un coin, dont on pourrait se dire elle serait suffisamment populaire et organisée pour renverser le gouvernement actuel. Donc, ça, c'est le premier point. Je pense que les gens n'ont pas beaucoup d'alternatives et ils le savent, quelle que soit leur opinion sur le gouvernement, ils le savent. Deuxièmement, le gouvernement est très sensible à la stabilité. Parce que le désordre est toujours coûteux et risqué. On ne sait jamais ce qui peut arriver, même s'il n'y a pas une opposition organisée, s'il y a certainement une faible probabilité qu'on puisse renverser le gouvernement de Xi Jinping. Le désordre est très coûteux dans une situation où l'économie chinoise a quand même besoin de rassembler toutes ses forces. Donc le gouvernement est très attentif à ces manifestations et va essayer de calmer le jeu, d'apaiser la population, en tout cas au fur et à mesure d'apaiser les plus en colère. On l'a vu justement avec cette situation dans les banques où les comptes avaient été gelés, où le gouvernement est intervenu, alors souvent encore une fois par l'intermédiaire de banques d'État, pour assainir la situation. Il faut voir que en Chine, même si le secteur privé est très important, les réseaux importants, les structures de défaisance, les banques sont publiques. Et donc le gouvernement a des leviers pour essayer d'atténuer les chocs et de compenser un petit peu les pertes des mécontents. Donc c'est sans doute sur ce levier que le gouvernement jouera pour ne pas remettre en cause la stabilité sociale. Et l'objectif premier, ce sera sans doute la stabilité.
Natacha Aveline, dernier mot de conclusion, il reste une petite minute. Une crise de confiance davantage qu'une révolution suite à cette crise immobilière en Chine ?
Oui, et d'autant que les Chinois sont des investisseurs jeunes en tant qu'investisseurs. Ils sont très immatures et ils ont l'habitude que le gouvernement règle leurs problèmes. Donc il y a aussi cet aspect-là, cette attente vis-à-vis du gouvernement. Le gouvernement, pour l'instant, réprime beaucoup quand même les manifestations. Il fait attention, il surveille, mais il a surtout peur d'une coalition entre les ouvriers et les cols blancs, les classes moyennes des villes. C'est pas encore émergent, mais on sait jamais. Ça pourrait arriver. Et c'est de ça qu'il a le plus peur. Donc, il se débrouille pour réprimer les manifestations, calmer les gens, pour faire en sorte que les mouvements restent atomisés.
Vous écoutez Culture Monde, second volet de notre série consacrée aux crises du logement. Aujourd'hui, la colère des petits propriétaires chinois. Et dans un instant, on reste en Chine pour parler des migrants de l'intérieur et de leurs difficultés à se loger avec la chercheuse Xinxia Lozaviu. Ce véritable tube étoile filante des années 90, déniché par notre réalisateur Vivian Le Cuivre, par Fai Wong, une chanteuse mais également actrice pékinoise. On continue notre série sur les crises du logement, on est toujours en Chine.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Je n'ai pas vraiment eu le choix, je n'ai pas d'argent, je suis un travailleur migrant. Les chambres ici sont... Bon, de toute façon, là où j'habitais avant, les appartements ont été détruits. Il n'y a plus de place pour moi, et ce qu'ils ont reconstruit est bien trop cher. L'avantage aussi, ici, c'est qu'on peut payer au mois, en laissant une caution d'un mois de loyer. Pour cela, il faut s'arranger avec le propriétaire.
Témoignage recueilli par RFI dans un village urbain de travailleurs migrants situé au nord-ouest de Pékin. Ainsi désigne-t-on ces Chinois qui ont quitté leur province et leur campagne natale en quête de travail dans une grande agglomération. Ouvriers sur les chantiers, chauffeurs, agents de sécurité, leur nombre est estimé à 376 millions. Or, ces migrants de l'intérieur sont depuis toujours relégués dans des habitats précaires aux périphéries et ont beaucoup de peine à trouver de vrais logements décents en ville. Bonjour Xinxia Lozaviu.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes géographe, chercheuse postdoctorale au Lab Urba de l'Université Gustave Eiffel et à l'Université Paris 1. Peut-être pour commencer, pouvez-vous nous dire qui sont ces travailleurs migrants, ce qu'on appelle comme ça? D'où viennent-ils en général et que viennent-ils chercher en ville?
Alors, tout d'abord, il faut partir de la définition de population flottante. La population flottante est tout d'abord une catégorie statistique officielle à l'échelle nationale en Chine et elle englobe toute personne vivant pour plus de 6 mois dans une localité autre que celle où leur résidence officielle est enregistrée. Elle inclut ainsi toutes les personnes censées se déplacer temporairement, c'est-à-dire sans transférer leur hukou, le livret d'enregistrement du ménage qui a déjà été évoqué tout à l'heure, dans la ville de migration. Et donc les statistiques en fait réservent l'appellation de population migrante officielle aux migrants qui transfèrent ce document lors d'une migration, ce qui implique un processus assez coûteux et compliqué. Ces migrants, comme vous l'avez bien dit, ont été recensés à 376 millions lors du dernier recensement de 2020. Les recensements sont organisés en Chine tous les 10 ans par le Bureau national des statistiques. Et on a vu l'augmentation impressionnante de cette population qui est passée de 6,6 millions de personnes en 1982 à 144 millions millions de personnes en 2000 pour atteindre les 376 millions aujourd'hui.
Alors pourquoi ? Pourquoi ces gens se déplacent-ils ? Pourquoi quittent-ils leur province et où vont-ils ?
Alors, ces migrants se déplacent le plus souvent des zones rurales et des petites villes vers les grands centres urbains, vers les villes côtières et les municipalités et les mégapoles en fait, du pays comme Shanghai, Pékin, Shenzhen, Guangzhou, etc. pour chercher du travail. Et ces dernières années, on a vu aussi ces migrants se déplacer vers les capitales provinciales, aussi vers certaines très grandes villes de l'intérieur. Ces migrants, une fois arrivés en ville, deviennent des travailleurs, donc. Toutefois, bien que très utile, on peut dire, une ressource très importante à la croissance et à l'urbanisation, il reste des habitants suspendus en ville, car exclus de l'accès aux services et aux avantages sociaux, ainsi que découragés pour plusieurs années de consommer là où ils travaillaient. Bien que lors de ces deux dernières décennies, on a vu quand même des changements importants dans leurs conditions urbaines, ces migrants et leur inclusion urbaine et l'accès aux ressources comme le logement, par exemple, restent un point central.
Alors, vous l'avez évoqué, ce permis de résidence, le Hoku, non, je le prononce mal, Hoku, c'est vraiment un sésame, hein, c'est ce qui permet, une fois qu'on réside dans une ville, d'avoir accès aux services publics de base, et on parle de l'éducation, on parle de l'accès aux soins et on parle aussi de l'accès au logement qui nous intéresse. Pourquoi les villes ont longtemps, alors c'est en train de changer, on va y venir, mais pourquoi ont-elles longtemps refusé de donner aux travailleurs migrants ce sésame, alors même que ces migrants contribuaient à leur croissance, à leur dynamique, hein. Ce sont eux qui font tourner les chantiers et tout un tas d'autres activités économiques.
Alors, il faut dire que le Hukou, donc le livret de résidence familiale, a été introduit pendant l'époque maoïste, donc dans les années 50, et il a été adopté en 1958. Il peut être comparé, comme vous l'avez bien dit, à une sorte de passeport interne qui relie tous les droits et les avantages sociaux auxquels une personne a droit au lieu de résidence officielle, ainsi que statut d'agricole ou de non-agricole qui figure sur ce document. Durant l'époque maoïste, le Hukou était un système inégal, mais qui posait de moindres problèmes dans la mesure où, en fait, les déplacements la mobilité spatiale dans le pays était strictement contrôlée grâce au système du Hukou, mais aussi grâce à un système de rationnement des denrées alimentaires et des biens d'usage commun, ainsi que par un système d'allocation publique du logement en zone urbaine. Avec le lancement des réformes économiques de 78, du début des années 80, les autorités... Alors déjà, on assiste en fait à une réapparition des migrations internes et les autorités décident de garder ce document, mais d'en limiter strictement donc le transfert dans la ville de migration, notamment s'il s'agit de très grandes villes et mégapoles, notamment pour réduire ou ne pas augmenter en fait la pression fiscale, comme il a été évoqué tout à l'heure, sur les collectivités locales. Ces dernières décennies, avec l'augmentation impressionnante de la population flottante, il y a eu toute une série de stratégies et de mesures pour régler en fait le transfert du Hukou dans les villes de migration. Toutefois, ces deux dernières décennies, on voit que ces stratégies commencent à évoluer vers une approche plus inclusive, on peut dire. On voit de plus en plus dans les discours et dans les documents officiels le mot « baoronxing », qui en chinois, ça veut dire « inclusivité » vis-à-vis des migrants, inclusivité qui reste toutefois subordonnée aux objectifs de croissance et d'urbanisation du pays.
Ça, c'est un tournant majeur, puisque à vous lire de vos travaux, on comprend que pendant longtemps, ces travailleurs migrants ont été très mal perçus, très mal considérés, associés à l'insécurité, à la délinquance également. Donc ça, c'est peut-être un regard qui est en train de changer. En quoi ça passe aussi, encore une fois, par le logement, puisqu'on le disait, ces travailleurs ne pouvant pas se loger dans les villes, mais devant y travailler, eh bien se sont retrouvés dans ce qu'on a appelé les villages urbains, qui sont en fait des habitats informels, hein, et précaires, vraiment en périphérie des villes. Ça a commencé à changer. Les villes ont commencé en 2008 à construire des grands programmes de logement pour cette population. population. Est-ce qu'aujourd'hui, ces travailleurs migrants peuvent enfin accéder au logement ?
Alors, il faut tout d'abord spécifier qu'en 2008, avec du coup la crise financière, il y a ce plan de 400 milliards de renminbi, c'est-à-dire 40 milliards d'euros en 2008, c'est-à-dire 50 milliards d'euros aujourd'hui, dédiés à la construction de programmes de logements sociaux. Toutefois, ces programmes sont destinés, pas tout de suite aux migrants de l'intérieur, mais à couvrir, s'adressent à ce qu'on appelle le groupe sandwich, c'est-à-dire les personnes qui n'arrivent pas, qui n'ont pas les critères pour obtenir un logement abordable, mais qui n'ont pas en fait les moyens d'accéder au marché du logement de plus en plus inabordable.
Donc les ménages les plus modestes.
Oui, et les migrants bien sûr font partie de ce groupe, mais c'est à partir de 2010 qu'on a les premières en fait politiques publiques qui mentionnent la possibilité pour certaines catégories de migrants d'être inclus en fait dans le public cible du logement locatif public, un programme en location aidée introduit donc après 2008. Et c'est à partir de 2013-2014 qu'on voit au niveau local apparaître des nouveaux types de logements abordables en location et en accession pour certaines catégories de migrants de l'intérieur.
Alors il faut nous dire quelles sont ces catégories. Alors, et quels sont les critères. À qui on va donner accès à un logement? Tous les travailleurs migrants n'y ont pas accès.
Alors il y a plusieurs catégories. Il y a par exemple les ouvriers migrants spécialisés de l'industrie qui peuvent bénéficier en fait de dortoirs mis à disposition par les entreprises qui vont à leur tour bénéficier en fait d'exonération fiscale pour la construction de ces dortoirs, mais il y a surtout la catégorie des talents et des talents exceptionnels qui, grâce à leur parcours académique sans faille et professionnel, qui doit être bien sûr démontré par une série de diplômes, d'obtention de prix, etc., peuvent avoir accès au logement dédié aux talents, en location aidée, ou dans certaines villes et municipalités, au logement en propriété partagée. Il s'agit d'un projet pilote qui n'a pas été introduit partout, mais par exemple a été introduit à Pékin, a été introduit à Zhuhai, dans la province du Guangdong, ville dans laquelle j'ai mené mes recherches. Il s'agit donc d'un programme d'accession partielle à la propriété, c'est-à-dire que les ménages ou les candidats qualifiés achètent 70% de la valeur du logement à un prix préférentiel, c'est-à-dire inférieur au prix de marché, et les 30% restants sont détenus par la collectivité locale ou par les entreprises d'État qui en fait sont en charge de ce projet. Et en fait, les talents s'y travaillent pour au moins 10 ans dans une entreprise innovante de la ville en question, les 30% du coup détenus par la collectivité locale le seront transférés directement et le logement pourra être vendu sur le marché à prix libre. Du coup, vous voyez, la logique autour de ces nouveaux logements est toujours la même.
Et ils peuvent enfin devenir propriétaires. Merci. Merci beaucoup, Shinzia Lozavio. Je vous rappelle, géographe et chercheuse postdoctorale au Labourba de l'Université Gustave Eiffel et à l'Université Cité Parisien. Merci beaucoup à nos deux intervenantes du début de l'émission, Natacha Aveline et Marie-Françoise Renard. Marie-Françoise Renard, je rappellerai pour vous l'économie de la Chine aux éditions La Découverte. Merci au studio France Bleu, Pays d'Auvergne, à Clermont-Ferrand. Et tout de suite, c'est la revue de presse internationale par Catherine Dutu.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et Catherine, ce matin, vous nous proposez un fil rouge sur l'immigration en Albanie. Tout d'abord, la Cour constitutionnelle a donné son feu vert à un accord migratoire avec l'Italie.
Il prévoit la construction de deux centres d'accueil dans le nord-ouest de l'Albanie pour les exilés secourus dans les eaux italiennes. Jusqu'à 3000 demandeurs d'asile seraient ainsi enregistrés et accueillis tous les mois dans ces centres qui pourraient ouvrir au printemps prochain, le tout aux frais de Rome, précise le Corriere della Sera.
L'Albania ha accettato di accogliere temporaneamente migliaia di migranti che raggiungono l'Italia in attesa che le autorità italiane possano esaminare le richieste di asilo.
L'Albania ha accettato di accogliere temporaneamente dei migliaia di migranti che atteignent l'Italia en attendant che le autorità italiane puissent traiter leur demande d'asile, ma il texte è largement critiqué par les groupes de défense des droits humains, explique cette journaliste d'Euronews. Pour la plus haute juridiction albanaise, cet accord migratoire, en tout cas, ne viole pas la constitution de Tirana, ni l'intégrité territoriale de l'Albanie, note la Stampa, Il Tempo et la BBC. Comme si nous avions une justice indépendante, dénonce l'opposition dans le journal albanais Gazeta Tema. Les ONG et la Repubblica, journal italien de centre-gauche, craignent de leur côté que les droits des demandeurs d'asile ne soient pas respectés en Albanie, pays tiers non membre de l'Union européenne. Les exilés seraient ainsi tenus loin des yeux des défenseurs des droits humains, estime le journal italien de gauche, Il Manifesto. Si on emmène les migrants vers l'Albanie sans passer par l'Italie, sans aucune identification préalable, cela pourrait constituer une forme de refoulement illégal de migrants, affirmait déjà cet automne la Repubblica. Et en cas de refus, comment garantira-t-on le droit au recours prévu auprès d'un juge italien ? Des inquiétudes qui poussent le journal de centre-gauche à qualifier cet accord migratoire de monstruosité juridique. Alors que le journal conservateur Il Giornale salue, lui, un accord qui change radicalement la perspective sur le problème migratoire, le journal catholique italien Avvenire parle d'une attaque contre le droit d'asile qui accroît la souffrance des migrants, qui plus est dans un pays, l'Albanie, corrompu, gangréné par la mafia. Le trafic d'êtres humains est au cœur de ce business, expliquait il y a quelques semaines la chaîne italienne La Sette, qui avait invité le procureur général de Naples, Nicolas Gratteri.
La mafia albanaise est la deuxième en Europe après la 'Ndrangheta, explique le procureur général de Naples. Elle est puissante et opère de l'Amérique latine pour le trafic de cocaïne jusqu'en Europe et en Albanie même. C'est un pays corrompu jusque dans la sphère judiciaire. La première ministre Giorgia Meloni, qui dirige le parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, a promis de sévir contre l'immigration, rappelle la BBC. Mais 150 000 exilés sont entrés en Italie en 2023, c'est 52 000 de plus que l'année précédente. Sujet au cœur des élections européennes, on y reviendra vendredi dans les journaux de la rédaction de France Culture. Par ailleurs, plus de 3 000 hommes, femmes et enfants sont morts en tentant de traverser la Méditerranée l'an dernier.
Et lui, Catherine, s'est noyé dans la Manche en tentant de rejoindre l'Angleterre.
La nuit où il est mort, Obada Abdrabo, un adolescent syrien de 14 ans, répétait qu'il ne savait pas nager aux hommes autour de lui. Ce jeune Syrien était saisi par des doutes et par le froid avant d'entrer en pleine nuit dans l'eau glacée de Vimereux, dans le Pas-de-Calais, c'était il y a 2 semaines. Mais son grand frère de 24 ans lui a serré la main pour l'encourager à prendre la mer. Tous deux sont morts. Et la BBC a retracé leur chemin depuis Dera, une ville du sud-ouest de la Syrie, où leurs parents les ont poussés à rejoindre l'Europe pour trouver une vie meilleure, pour ne pas être enrôlés dans l'armée de Bachar el-Assad, pour ne pas tuer ou être tué. Quand il est parti de Syrie, en mai dernier, Obada n'avait que 13 ans, indique la BBC. Avec son grand frère, ils sont passés par la Libye, où ils ont été emprisonnés et torturés, témoigne un autre Syrien qui voyageait avec les deux frères. Ils dormaient à même le sol, un seul repas par jour, bien souvent un petit bol de pâte. Finalement libérés, les frères ont ensuite trouvé un passeur 22 heures en mer avant d'être secourus par les gardes-côtes italiens au large de l'île de Lampedusa. Ils sont ensuite remontés vers le nord, Milan, puis la France. 9 mois d'errance au total avant d'arriver à Calais début janvier. Les frères ont alors dormi sous un pont dans une tente pour tenter d'échapper à la police française. Pour 2000 euros chacun, un passeur leur a fait miroiter le voyage jusqu'au Royaume-Uni, explique la BBC. Les deux frères se sont finalement noyés dans la nuit en tentant d'embarquer sur ce petit bateau pneumatique dans les eaux glacées de la Manche. Les parents de ces deux jeunes Syriens se sentent coupables. Ils demandent, en pleurs dans une vidéo diffusée par la BBC, de voir leurs enfants une dernière fois avant leur enterrement. La plus grande faute est en fait celle des lois européennes qui rendent la vie des réfugiés impossible, selon une Française qui a rendu hommage aux deux frères syriens à Calais. Une centaine d'habitants et une poignée de migrants se sont rassemblés dans le centre-ville pour observer une minute de silence et pour ajouter, précise la BBC, les noms d'Obada et d'Eiser à la longue liste de celles et ceux qui ont péri en tentant de traverser la Manche ces dernières années.
Merci beaucoup Catherine Dutu pour la revue de presse internationale. On vous retrouve demain et nous serons demain du côté de l'Afrique du Sud où l'on peine à se loger malgré de grands chantiers de construction mis en place après l'apartheid. Ce sera le troisième volet de notre série sur les crises du logement. Et dans un instant, les midis de culture.